Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le genre radiophonique qui vient est assez rare, un peu précieux, un peu daté. Mais par définition, une archive est toujours datée, si l'on n'accole pas à cet adjectif une notion péjorative. C'était en 1971, année du centenaire de la naissance de Marcel Proust, et toutes les richesses de son œuvre avaient dû nourrir déjà l'antenne de France Culture. Alors, l'humour de Proust, étudié par un Anglais, ne pouvait être absent de ses programmes commémoratifs. Un Anglais absent, cela dit, lui, mais dont le livre qu'il lui avait consacré allait servir de fil conducteur. Première diffusion sur France Culture, le 14 juin 1971.
I've been asked by the London County Council to make an announcement about this tuba. As a matter of fact, this is a Stradivarius tuba.
Lester Mansfield est un universitaire américain qui a publié en 1953, à la librairie Nisei, une pénétrante étude sur le comique de Marcel Proust. Monsieur Mansfield est retourné depuis aux États-Unis et c'est un comédien, Roger Brett, qui l'incarne dans cette émission. Bien entendu, ses réponses sont scrupuleusement extraites de son ouvrage « Le comique de Marcel Proust ». Lester Mansfield, comment définiriez-vous ce comique ?
Laissez-moi d'abord vous rappeler en deux mots que ce fut seulement à force de persévérance et après de nombreux et décourageants échecs que Marcel Proust parvint à faire publier le premier volume de son long roman « interminable, selon certains critiques, à la recherche du temps perdu. C'était en 1913. Cette œuvre fut d'abord totalement méconnue. On trouvait le style affecté, le plan même du livre, difficile à saisir. La parution complète du roman, dont la première partie, Le temps retrouvé, ne fut publiée qu'après la mort de son auteur, aidait à sa compréhension. Mais déjà, du vivant même de Marcel Proust, une certaine élite s'était formée en France et à l'étranger qui voyait dans cette œuvre étrange, aussi étrange que la vie et la personnalité de son auteur, un événement capital dans l'histoire des lettres. Ce qui semblait peut-être caractériser le mieux le roman de Marcel Proust, c'était sa contemporanéité. Sans avoir lu Einstein, connaissant à peine Freud et niant toute influence directe de Bergson, il avait écrit une œuvre qui renfermait d'une façon remarquable l'essentiel de ses découvertes, pierre d'angle de la pensée moderne, la destruction des valeurs fixes, la relativité dans l'espace, dans la durée et dans la vie psychique de l'homme. Il était donc tout naturel que s'affirma peu à peu chez les critiques la tendance à interpréter l'œuvre de Proust à la lumière de ses découvertes. Il n'est donc pas étonnant que la qualité essentielle du génie de Proust se soit peu à peu obscurcie. En somme, on commençait à oublier le roman, et ainsi, le public risquait de méconnaître la véritable nature de l'œuvre de Proust, d'y voir une œuvre difficile et obscure, une œuvre pour une élite, aussi restreinte que celle de M. Einstein. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, le roman de Proust mérite d'être lu non seulement comme une œuvre remarquable par sa profondeur, par la richesse de sa pensée et de ses trouvailles intellectuelles, mais aussi comme une œuvre qui divertit.
Vous allez même jusqu'à affirmer qu'À la recherche du temps perdu est un roman comique.
Il est comique, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'il exclut tout élément tragique ou pathétique, et dans le sens le plus concret, il provoque le rire. Rattacher Proust uniquement aux philosophes et aux hommes de science de son époque serait aussi déraisonnable que de ne voir, par exemple, dans le théâtre de Corneille, qu'une parabole de la pensée cartésienne. Je souhaiterais faire découvrir dans son œuvre ce qui me semble sa qualité première, sa gaieté. Elle est en effet peut-être le seul roman de notre siècle et un des rares romans de la littérature française qui soit foncièrement comique. Proust est le Dickens français. C'est beaucoup dire. Certains s'étonneront sans doute de l'affirmation que Marcel Proust fut avant tout un créateur comique. Mais son comique ne fut nullement l'unique résultat d'une intention de provoquer le rire, comme il le serait par exemple chez un Rabelais, un Beaumarchais, un Courteline. Ses sources sont bien plus profondes. Elles résident dans la construction même de l'œuvre et dans une certaine vision des hommes et des choses.
En quoi, selon vous, cette œuvre diffère-t-elle du roman dit classique ?
Dans le roman traditionnel, l'auteur fait abstraction de lui-même. Il reste, comme le lecteur, en dehors de sa création. Il se détache de son expérience, comme un sculpteur se détache de la pierre qu'il a travaillée. Il traite ses souvenirs comme une matière inerte et étrangère, une matière qui n'a existé que pour servir son art. C'est pourquoi, dans le roman traditionnel, le temps s'identifie avec le drame, figé pour ainsi dire dans l'espace, et le souvenir est détruit au profit du simple déroulement d'une intrigue. Les romanciers, dit Proust, sont des sots qui comptent par jour et par année. Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. Pour parcourir les jours, les natures un peu nerveuses surtout disposent, comme les voitures automobiles, de vitesses différentes.
Il n'y a donc pas de temps à l'intérieur même du souvenir.
Non, car toute illusion de durée vient de ces alternances de tension et de détente, de création et de pensée. Loin d'être un miroir qui se promène sur une grande route, c'est ainsi que Stendhal définit le rouge et le noir, le roman de Proust est une série de miroirs immobiles que le promeneur scrute successivement. Le mouvement qu'on y trouve est proprement le mouvement interne de celui qui se souvient. Et c'est en ce sens seulement que « À la recherche du temps perdu » est un roman de la durée. Ainsi, si les personnages de Proust avaient une vie, il faudrait la figurer non comme une simple courbe linéaire résultant du prolongement d'un seul point, mais comme l'agglomérat informe et fortuit d'un nombre illimité de points. D'où l'apparente gratuité de l'œuvre qui a frappé André Gide. L'art de Proust est proprement moléculaire, dans ce sens que son imagination ne déborde pas les limites du souvenir. D'un bout à l'autre de son roman, on n'a jamais l'impression d'une histoire qui est racontée, d'une intrigue qui se noue et se dénoue, mais d'une suite d'images, merveilleusement évoquées mais statiques, comme un film qui se déroulerait si lentement que l'œil perdrait l'impression d'une continuité et réussirait à distinguer séparément les images. L'art du conteur, essentiellement synthétique, fait le sacrifice d'une dimension, celle de la durée, pour produire une illusion de mouvement. Proust, lui, immobilise le temps pour le produire comme une chose qui est. Et alors, À la recherche du temps perdu, est un roman de perpétuel devenir où tout est en train d'arriver et où rien n'arrive.
Lester Mansfield, quelle est pour vous la base du comique de Proust ?
Marcel Proust, par la voie du souvenir, a réussi à créer ce qui constitue dans les annales de la littérature une sorte de miracle, un roman où rien pratiquement ne se passe, un roman sans histoire. En évitant cette alternance entre mobilité et immobilité, entre dramatique et comique, entre progrès et stabilité, qui est le signe de toute œuvre dont le but est de provoquer le rire, Proust a jeté les fondements d'un comique sans alliage, sans autre justification que lui-même, un comique pur. Le comique de Proust ne serait en fin de compte que la conséquence logique de sa critique du temps.
En écoutant les gens, Proust s'est toujours attaché d'abord au côté extérieur de leur conversation, à leur manière de parler plus qu'à ce qu'ils disaient.
Il l'a lui-même fort bien expliqué. Comme un géomètre qui, dépouillant les choses de leur qualité sensible, ne voit que leur substratum linéaire, ce que racontaient les gens m'échappait. Car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule. En fin de compte, l'art de Proust, et ce fait d'une importance fondamentale, semble avoir échappé à la plupart des critiques, est essentiellement descriptif. Rien n'est raconté au cours de ce long roman. Tout y est décrit, parce que tout y a une valeur en soi. Les paroles des personnages seront rapportées en tant que paroles. Chaque fois qu'un de ces héros ouvrira la bouche, dit Benjamin Crémieux, son langage devra exprimer sa caste, son âge, son hérédité, son lieu de naissance, sa personnalité entière. Ce sera un document phonographique à insérer dans le musée du parler français.
On a parfois établi une comparaison entre Freud et Proust. L'un et l'autre creusent le sujet qu'ils dissèquent moralement jusqu'à ses derniers retranchements. Qu'en pensez-vous ?
Toute ressemblance entre Proust et Freud est purement fortuite. Par un curieux paradoxe, Freud, le psychologue, envisage l'homme comme ferait un romancier, tandis que Proust, le romancier, l'envisage comme ferait un psychologue ou un biologiste pur. Freud comme un ensemble de forces, Proust comme un système de velléité et de mouvement, ce qui explique sans doute pourquoi Freud a été si vite adopté par les romanciers de nos jours, voire Joyce et l'école américaine, tandis que la psychologie de Proust, inséparable du culte du souvenir, ne pouvait avoir qu'une influence très limitée.
Quels sont pour vous les courants qui vont déterminer le comique proustien ?
Il y en a deux. Le premier, c'est l'exactitude basée sur une observation minutieuse et quasi scientifique de l'homme. Le deuxième est une vision foncièrement personnelle qui déterminera non seulement la qualité et la force de cette observation, mais, ce qui est plus important, la direction qu'elle va prendre, les effets qu'elle va rechercher. Et toutes les deux, observation et vision, découlent d'une même esthétique, le culte du souvenir, et d'une même critique, celle du temps. Elles se complètent aussi, constituant un équilibre qui préserve l'artiste d'une part d'un diagnostic banal et d'autre part d'un surréalisme pur. Et sans doute, par là même, ces deux dangers seront pour Proust toujours menaçants.
On a l'impression, en lisant Proust, d'un fil qui relie dans son esprit l'idée du ridicule à une méthode purement scientifique.
C'est exact. Et rien n'explique mieux la tendance, presque constante chez Proust, à assimiler ses personnages à des oiseaux, des poissons, des arbres, à tout ce qui lui permet de les examiner, non comme des êtres doués d'une volonté, gonflés par leur rôle et leur situation, mais comme des systèmes organiques qui agissent d'une certaine façon, sous une excitation donnée. Ils ont ce caractère végétal que M. José Ortega y Gasset surprend en eux. Ils sont littéralement des instantanés, trop brefs pour affirmer une volonté, trop passagers pour incarner un idéal ou achever une vengeance. Le regard, toujours aigu de Proust, doué d'une incroyable force de désintégration, dissèque l'homme, pour nous montrer comment un tel marche, un tel s'assoit, rit, pleure, écoute la musique, passe une porte. Tout sera matière à observation et à description. Et c'est ainsi, par un curieux retour, que l'art de Proust rejoint celui plus naïf de La Fontaine. Le personnage proustien fera penser aux singes, aux chiens, aux renards. Comme eux, il ne sortira jamais de sa propre peau. Il sera rigoureusement ce qu'il est. La grenouille ne sera jamais le bœuf. Aucun de ces personnages n'échappera au cruel stigmate d'un comique implacable et continu. Aucun n'aura cette dignité qui l'emporte sur le ridicule, ou ce pathétique qui touche et qui fasse pardonner. Hein? Comme dirait le baron de Charlus, ils en sont tous.
On a souvent accusé Proust d'être un auteur microscopique. Ainsi, Léon Pierquin écrit « D'un visage, il n'apercevait qu'une partie de la joue, mais avec ses pores, ses sillons, invisibles à tous. »
La vérité, c'est que Proust ne cherche qu'à capter les attitudes et les gestes de l'homme sous tous les angles et toutes les lumières qui peuvent lui donner un aspect nouveau. Il se fera, s'il faut, un Lilliputien dans un monde de Gulliver, décrivant un visage comme un donjon désaffecté, et un monocle comme un éclat d'obus. Il ralentira un geste pour rendre minutieusement toute l'étendue de son parcours et tous les mouvements du corps qui l'accompagnent. Il évoquera un étonnant univers de métaphores pour nous faire voir à quoi tel nez, telle bouche, telle taille ressemble. Il frôlera même dangereusement le surréalisme et souvent son comique, comme celui d'un Caliban et de Gargantua, est un comique de grotesque. Il regardera un homme comme s'il était un monstre sans précédent tombé de la lune, dont le nom « homme » tout seul ne signifierait rien, et qu'on ne pouvait rendre qu'avec les comparaisons les plus recherchées et les plus surprenantes. C'est peut-être cette attitude de pur étonnement qui caractérise le mieux le comique de Proust.
Il était fréquemment sujet au fou rire.
Oui. Et d'ailleurs, le seul rire qui rende complètement le comique de Proust, c'est le fou rire. D'après son ami Léon Daudet, le fou rire fut si fréquent chez le jeune Marcel Proust, si enraciné dans sa nature, qu'il constitua un véritable vice social. Le comte Robert de Montesquieu, raconte Daudet, avait découvert une personnalité géniale, chez qui il faisait à Marcel Proust et à moi l'honneur de nous inviter. Marcel Proust, imprudent et scrupuleux, écrivit à M. de Montesquieu pour le mettre au courant du fou rire et le prévenir d'avance qu'il faudrait l'excuser et de m'excuser aussi s'il nous voyait rire bêtement et sans raison, que c'était une espèce de maladie et qu'enfin il le suppliait de ne voir là aucune moquerie ni quoi que ce fût d'impoli. L'aspect sévère et soupçonneux de M. de Montesquieu quand nous entrâmes provoqua bientôt ce que Marcel Proust craignait. Et après quelques essais de gravité apparente, nous ne pûmes que nous sauver en cachette, étouffant de rire et courbés en deux. Le fou rire fut considéré par M. de Montesquieu comme une invention perfide destinée à détruire l'harmonie du goûter organisée par ses soins.
Hélas, le fier comte n'échappera jamais au fou rire de Marcel Proust. Il deviendra un jour le baron de Charlus.
Que signifie au juste le fou rire ? C'est un sentiment de l'absurdité au fond de toute chose ?
Le fou rire est vraiment fou. Car ce qui le déchaîne, c'est la révélation par un détail sans signification apparente, un chat qui miaule, un bouton qui tombe par terre, de la folie qui gît au fond de la grave pantomime et qui n'attend qu'un prétexte pour sévir comme un sinistre fléau et tout couvrir de sa contagion. C'est une véritable révolution du non-sens, la graine lunatique qui bourgeonne avec la rapidité d'une conflagration. Une fois au cours de son œuvre, Proust le constate avec la plus grande netteté. Il n'y a pas de grande soirée mondaine si, pour en avoir une coupe, on sait la prendre à une profondeur suffisante. Qu'il ne soit pareil à ces soirées où les médecins invitent leurs malades, lesquels tiennent des propos fort sensés, ont de très bonnes manières, et ne montreraient pas qu'ils sont fous. S'ils ne vous glissaient à l'oreille en vous montrant un vieux monsieur qui passe, c'est Jeanne d'Arc.
Mais on ne peut pas se moquer ainsi des gens sans être un peu cruel.
C'est vrai. Le rire de Proust ne manquera pas assurément d'avoir une certaine cruauté, car tout rire est nécessairement cruel. Et le fou rire, même chez l'enfant, semblera un écho diabolique. Mais il ne sera jamais dirigé avec la même force et la même volonté que celui d'un Molière ou d'un Swift. Avant tout, le comique de Proust n'est pas un comique à thèse. Il n'attaque aucun abus social, aucune faiblesse humaine, tout simplement... Il coïncide avec un certain sujet, aristocratie, inversion, snobisme, ce qui en fait ressortir des nuances de satire ou de désapprobation. Qu'il y ait de la satire chez Proust est un fait certain, mais elle est sans férocité parce qu'elle est sans haine. Il est significatif que Proust partage tous les défauts qu'il semblerait attaquer le plus. Il n'a pas, comme Rabelais, ses papes-figues ou ses chats fourrés. Il ne vise pas, comme Molière, les médecins, les tartuffes ou les célimènes. Les ridicules d'un Cottard ou d'une Madame Verdurin seront exposés avec la même justesse, la même clairvoyance que ceux d'un Swann ou d'un Saint-Loup. Proust ne cherche pas à nous faire rire. Mais son optique fait que tout ce qu'il voit est risible. Son rire, comme son roman, est sans commencement et sans fin, car il coïncide avec tout ce qu'il voit. C'est pourquoi une des scènes où le comique de Proust semble être le plus féroce, celle de la mort de la grand-mère du narrateur, est la scène qu'il aurait voulu la plus tendre. Et c'est là, nous semble-t-il, le sens véritable qu'il faut donner aux intermittences du cœur. Le comique de Proust n'est pas proprement un comique dur. Tout simplement, il lui manque d'être tendre.
Lester Mansfield, pensez-vous que Proust avait lu Le Rire de Bergson ?
La question ne se pose pas. Une telle conception du comique découle naturellement, voire nécessairement, d'une philosophie et d'un art fondés également sur l'idée de la mobilité. La preuve, c'est que la thèse bergsonienne sur le rire, devenue justement célèbre, le rire est le plus populaire des livres du grand maître, dépassant même son évolution créatrice, est déjà implicite et comme formulée en germe dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous. Nous parlons plutôt que nous ne pensons. Nous sommes agis plutôt que nous n'agissons nous-mêmes. Et en un sens, c'est sa vision de l'homme en fonction d'une société oisive, figée et inutile qui amènera Proust, consciemment ou non, à créer en artiste ce que Bergson devait poser en philosophe. En tout cas, les pages d'À la recherche du temps perdu sont semées d'exemples de ce qui serait pour Bergson le comique le plus authentique. Là où l'homme s'oublie en tant que personnalité et où son corps, véritable mécanique, qui ne se prête pas toujours aux exigences de la vie spirituelle, déchire un déguisement pompeux et factice et révèle un homme réduit aux proportions d'une espèce. C'est du contraste entre la parure héroïque de l'homme et sa nudité momentanée et accidentelle que naît le rire. Proust ne descend jamais jusqu'au comique grossier des lazzi ou des parades. Il lui suffit d'enregistrer avec une merveilleuse exactitude et minutie un geste, en le ralentissant pendant tout le parcours de son trajet, pour nous montrer que ce qui nous semblait gracieux et poétique, évoquant toute une vie spirituelle et intérieure, n'est que la piètre gesticulation d'un automate. Ainsi, quand il décrit la démarche d'un Legrandin, ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche, ridiculement, et il avait l'air, tant il s'y abandonnait entièrement et n'ayant plus souci du reste, d'être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Et quelquefois même, Proust nous rend un personnage comme s'il n'était pas du tout une créature en chair et en os, mais une sorte de poupée fabriquée de toutes pièces. Par une transposition de sens, M. de Cambremer vous regardait avec son nez. Ce nez de M. de Cambremer n'était pas laid, plutôt un peu trop beau, trop fier de son importance, busqué, astiqué, luisant, flambant neuf. Il était tout disposé à compenser l'insuffisance spirituelle du regard.
Jamais peut-être un auteur n'est allé si loin que Proust dans l'usage de la métaphore.
Oui, et au point de vue purement technique, la métaphore est proprement un moyen pour atteindre la précision, pour immobiliser et épaissir une image en la doublant d'une autre. Il est évident que pour Proust, chez qui la précision est presque un fétiche, la métaphore sera une des caractéristiques les plus constantes du style. Proust constate même que la métaphore seule peut donner au style une sorte d'éternité. Et Proust a su manier la métaphore avec une telle hardiesse, une telle envergure, une telle virtuosité, qu'elle nous semble constituer un comique entièrement nouveau. Aucun personnage de Proust n'échappe aux cruelles analogies avec des formes basses et inhumaines. Analogies d'autant plus cruelles qu'elles seront merveilleusement justes. Sous le monde proustien, qui est un monde essentiellement matériel, un monde de tous les jours, bien laid et bien banal, bouillonne comme un remous de cauchemars irréels, grouillant de silhouettes bizarres, grotesques, ironiques. Le flux des métaphores accompagne le réel, l'entourant d'une frange funambulesque, comme le songe accompagne la vie. Un exemple entre mille, quand il décrit ainsi la marquise de Galardon. Elle rejetait fièrement en arrière ses épaules détachées de son buste et sur lesquelles sa tête, posée presque horizontalement, faisait penser à la tête rapportée d'un orgueilleux faisan qu'on serre sur une table avec toutes ses plumes. Ce n'est pas qu'elle ne fût par nature courtaude, amasse et boulotte. mais les camouflets l'avaient redressé, comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre.
Vous parliez de La Fontaine tout à l'heure. Et comme lui, Proust établit une étroite équivalence entre le monde des hommes et le monde des bêtes.
Ah oui, mais à la différence de La Fontaine, le zoo proustien sera en principe limité à un aquarium et à une volière. Proust ne fait guère de comparaison qu'avec des oiseaux et des poissons. Mais celles-ci sont si fréquentes que le lecteur se demande souvent de quel côté de la cage ou du verre vivent les personnages. Le marquis de Palancey, le cou tendu, la figure oblique, son gros œil collé contre le verre du monocle, se déplaçait lentement dans l'ombre transparente et paraissait ne pas plus voir le public de l'orchestre qu'un poisson qui passe, ignorant la foule des visiteurs curieux, derrière la cloison vitrée d'un aquarium. Par moments, il s'arrêtait, vénérable, soufflant et moussu, et les spectateurs n'auraient pu dire s'il souffrait, dormait, nageait, était en train de pondre ou respirait seulement.
Proust ne s'intéresse pas seulement à l'aspect physique des personnages qu'il dépeint.
Non. Non, il y a chez lui, comme chez Rabelais, alternance entre le comique visuel et le comique sonore, de sorte que le rire, suscité par la vue de tel visage, de tel mouvement, de tel geste, est aussi dépouillé de toute intellectualité qu'une pantomime de Chaplin ou une parade cinématographique de Walt Disney. Et Proust ne cherche qu'à révéler, par le langage, un aspect de son personnage qui, joint à l'aspect physique, nous donne une idée complète de son extérieur tel qu'il frappe l'observateur. Cela explique pourquoi Proust se permet souvent de prolonger les propos de ses acteurs au-delà de ce qui serait dramatiquement utile. Il fait jouer un personnage jusqu'à ce que tous les tics sonores aient été enregistrés. Et ici encore, il étudie l'aspect sonore de l'homme comme un biologiste étudie le chant d'un oiseau, le rugissement ou le caquetage d'une bête étrange. Et il y a des moments, dit Proust, où, pour peindre complètement quelqu'un, il faudrait que l'imitation phonétique se joignît à la description. Et celle du personnage que faisait M. de Charlus risque d'être incomplète par le manque de ce petit rire si fin, si léger, comme certaines œuvres de Bach ne sont jamais rendues exactement parce que les orchestres manquent de ces petites trompettes au son si particulier pour lesquelles l'auteur a écrit telle ou telle partie. Proust enregistre avec une fidélité presque phonographique, les diverses espèces du parler humain, il les commente. Le génie linguistique à l'état vivant, l'avenir et le passé du français, voilà ce qui eût dû m'intéresser dans les fautes de Françoise, dit-il au sujet de sa vieille servante. L'estopeuse pour la stoppeuse, n'était-il pas aussi curieux que ces animaux survivants des époques lointaines, comme la baleine ou la girafe, et qui nous montrent les états que la vie animale a traversés?
En somme, le génie comique de Proust, à la manière d'un bistouri, fouille dans un personnage pour découvrir ce qu'il a de faux, de truqué.
Le narrateur approuvera le langage campagnard et archaïque de Françoise, comme il sera blessé lorsqu'elle emploie un français moderne avec des mots d'argot parisien appris de sa fille. En revanche, il goûte avec délice la poésie primitive et naturelle des deux coursières de l'hôtel de Balbec, Marie-Gineste et Céleste Albaret. Proust trouve une sorte de joie satanique à relever tous les tours d'un parler trop richement paré d'expressions et d'images recherchées, un parler qui dénonce cette raideur spirituelle qui est l'équivalent de la raideur du corps. Un docteur qui dit « Vous ne souffrez pas de cette hyperthermie » au lieu de « Vous n'avez pas chaud » est raillé sans pitié par notre auteur. C'est que la médecine a fait quelques petits progrès dans ses connaissances depuis Molière, mais aucun dans son vocabulaire. Les oreilles de Proust sont aussi attentives que ses yeux. Son réalisme sonore est aussi fertile en comique que son réalisme visuel. Une intonation, un accent, un rire, un cri. Ne fut-il que le brouhaha des marchands dans la rue, comme le montre un remarquable passage dans La Prisonnière. Rien ne lui échappe. Tout est rapporté avec une véritable fidélité de dictaphone. La vérité, c'est que Proust imite ses personnages de la même façon qu'un acteur ou un mime du cabaret ou du music-hall, avec ceci de plus, qu'il apporte à sa tâche une finesse, une subtilité, une vision, une profondeur psychologique qui semble mettre en lumière avec une merveilleuse précision tous les plis dont l'espèce humaine est susceptible.
Tous ces biographes ont souligné que Proust possédait un grand talent de mime.
En effet, Madame de Clermont-Tonnerre raconte, par exemple, Proust imitait Montesquieu à tel point, dans la voix et les manières, qu'il avait pris son rire et la façon qu'avait celui-ci de se cacher la bouche pour qu'on ne vît pas ses dents noires. Puis il tapait du pied, comme Montesquieu, ce qui était très laid car il était petit. Il portait toujours des gants trop longs et remplaçait le magnifique foulard de soie du comte par de chauds passe-montagnes qu'il décrochait dans son antichambre. Et le meilleur tribut qu'on pourrait payer à son exactitude, c'est que Montesquieu s'est bien reconnu, comme tout le monde le sait, sous les traits du baron de Charlus. Ainsi avait-il déclaré à Madame de Clermont-Tonnerre, « Je voudrais bien un peu de gloire, moi aussi. Je ne devrais pas m'appeler que Monteproust. »
Une grande partie de la recherche du temps perdu étant constituée de dialogues dans le cadre d'un salon, ne pourrait-on en envisager une adaptation théâtrale ?
Certainement ! On trouve chez lui de véritables scènes de théâtre qui rivalisent souvent avec celles de Molière, car Proust aura aussi ses précieux, ses bourgeois, ses aristocrates ridicules. Les répliques se prêtent aussi bien à être jouées que celles de Meillac, que Proust a beaucoup admirées. Et tandis que bien des comédies qui furent à la mode à l'époque, celles par exemple de ses amis Caillavé et de Flers, ont perdu une bonne partie de leur parfum et de leur force comique, des centaines de pages de Proust sont remplies de dialogues, de monologues, de répliques dont le comique reste intact. Chaque personnage nous est peint par son seul langage, où se révèle son esprit, ses excentricités, son rang social, sa profession, sa culture, sa figuration morale. Ce ne sont pas sans doute des pièces, mais des coupes de dialogues, dont le comique peut être goûté sans que le lecteur ait besoin de se demander où il en est. Il assiste à une scène dont le seul but est de divertir. C'est du comique théâtral le plus haut et le plus désintéressé, car jamais Proust ne se laisse distraire par les exigences d'une intrigue, d'un progrès dramatique. Si, par le fond, ces scènes sont très près de celles de Molière, leur construction suggère plutôt la forme relâchée et floue de Tchekhov. Et presque toutes les scènes de Proust, et elles sont nombreuses, se passent dans des salons. Le célèbre dîner chez la duchesse de Guermantes, qui remplit plus de 150 pages dans une édition normale, pourrait être joué presque en entier sur les planches d'un théâtre, avec très peu de changements. On déblayerait naturellement tout le commentaire que Proust y insère pour expliquer telle répartie, pour décrire telle intonation ou tel geste. Commentaire qui servirait admirablement de guide au metteur en scène et qui ne fait que renforcer le comique.
Lester Mansfield, j'aimerais que vous nous parliez d'une des figures les plus extraordinaires du temps perdu, qui est sans doute celle du baron de Charlus.
Ah, c'est aussi l'une des plus grandioses qui soit dans les annales de l'humour. Chez Charlus, le mal, c'est de porter une nature de femme dans un corps d'homme. Il fait partie de ces citoyens de Sodome, chassés de leur patrie naturelle par un dieu en colère, et dont le supplice est d'errer à travers un monde hostile. Son seul espoir, c'est de reconnaître de temps en temps, parmi les hommes qui l'entourent, les signes qui le mettront en contact avec d'autres sodomites, trouvant ainsi de courtes et d'intermittentes trêves dans sa guerre sournoise et secrète contre une société qui le ridiculise. La tragique comédie de Charlus est celle d'un homme dont la dualité s'affirme de plus en plus au fur et à mesure qu'il vieillit. Sa féminité devient de plus en plus évidente, mais le masque d'une truculente virilité avec lequel il cherche à la cacher, devient aussi un mal, s'épaississant en prenant l'aspect et la force d'une deuxième nature. L'antidote devient le poison, et la pédérastie fait place à son envers qui est le sadisme. Il est évident que Proust, ici, avec une singulière hardiesse, expose un thème qui jusqu'alors n'avait guère de place dans la littérature chrétienne. Elle est traitée avec beaucoup de prudence par Balzac, dans son portrait de Vautrin, qui est d'ailleurs l'équivalent de Charlus dans l'œuvre balzacienne, et dans La fille aux yeux d'or. Elle apparaît aussi chez un écrivain qui est presque exactement contemporain de Proust, André Gide, dans son Coridon, dans Les faux monnayeurs, et dans Si le grain ne meurt.
Mais alors André Gide, précisément, a fait grief à Proust d'avoir utilisé l'inversion comme sujet comique. Il l'a même qualifié de maître en dissimulation. Gide accusait Proust d'hypocrisie. Il disait que c'était une sorte de trahison de ridiculiser un mal dont on est soi-même victime ou un vice dont on est soi-même coupable. Et Gide n'avait aucun doute à ce propos. Le 14 mai 1921, il écrit dans son journal, en parlant d'une soirée passée avec Proust, « Loin de nier ou de cacher son uranisme, il l'expose, et je pourrais presque dire sans targue. Il dit n'avoir jamais aimé les femmes que spirituellement, et n'avoir jamais connu l'amour qu'avec des hommes. Je veux bien croire, ajoute Gide, que les uranistes sont encore un peu plus nombreux que je ne le croyais d'abord. En tout cas, je ne supposais pas que Proust le fût aussi exclusivement. »
Justement, Proust pouvait ridiculiser Sodome, parce qu'il en fut lui-même un des tristes citoyens. Charlus, Vaugoubert, Salou, Nissim Bernard, même Morel sont ses compatriotes. Il les crée comme des parties de lui-même. Il les crée en raison du fait qu'il les connaît comme il se connaît lui-même. Et c'est ainsi qu'il crée les snobs, les juifs, les amoureux, les pédants. Le rire ne peut provenir que de l'étalage minutieux d'un ridicule que seule une connaissance intime rendrait possible. Mais se mettre soi-même dans son œuvre pour exhiber un ridicule ou un vice, c'est faire une confession. Ce n'est nullement créé. Faire grief à Proust d'avoir conçu un comique d'inversion, c'est faire grief aussi à Molière d'avoir conçu un comique de coquillage. Avec le baron de Charlus, autour de la conception d'un homme qui est en quelque sorte partagé entre deux personnalités également absurdes, Proust compose un personnage unique, à qui l'universalité de son comique assure sans doute une place près de l'immortel Don Quichotte, auquel d'ailleurs il ressemble singulièrement. Mais tandis que le comique du héros de Cervantes est toujours susceptible de tourner au pathétique, celui de Charlus est impitoyablement constant. Pour Don Quichotte, il y aura toujours le choc cruel et intermittent contre le réel, et le comique s'évanouira au moment où le héros prend contact avec l'ennemi. Le songe se heurte contre la chose. Et pour Charlus, hélas, il n'y a guère de ces réveils momentanés, presque sauveurs, où le souffle d'un vent extérieur vient faire frissonner le dormeur. Sa vie est une lente chevauchée vers un moulin qu'il n'atteindra jamais.
Il n'y a pas seulement dans Proust un comique individuel, mais aussi une satire d'une certaine société.
Oh, d'une façon générale, on peut qualifier l'œuvre de Proust comme une comédie sociale. Entre les personnages d'À la recherche du temps perdu et leur milieu, leur classe, il y a des rapports intimes et complexes. De sorte que les actes et les attitudes de ces personnages prennent une signification. Et, si j'ose m'exprimer ainsi, une signification anthropologique. Elle révèle les mœurs, les rites, les formules de la tribu. En effet, Proust est bien plus anthropologue que sociologue. Il a volontairement limité son canevas à un segment très restreint de la société. C'est la haute société, c'est le gratin qu'il dépeint. Cette société est elle-même composée de deux classes théoriquement distinctes, la noblesse et la haute bourgeoisie. Mais économiquement, elles n'en font qu'une seule et en effet, elles finiront par se confondre. La disparition d'une vieille noblesse qui a perdu toute force et toute signification, une noblesse débile et usée, et la transformation d'une couche supérieure de la bourgeoisie en une noblesse nouvelle qui remplace l'ancienne. Voilà toute la thèse sociale du roman de Proust. À la différence de Balzac, Proust ne nous fournit pas un panorama à vol d'oiseau de la population d'une ville. Les omissions sont flagrantes. On ne voit guère les ouvriers, les employés de bureau, les fonctionnaires, les midinettes, les marchands. L'existence de tout ce monde, on la soupçonne à peine. Ce sont les classes dites de loisirs qui occupent toute l'attention de Proust. Ce qui caractérise les personnages de Proust, c'est leur inutilité. Ils ne produisent rien. Le roman de Proust est une fête continuelle, d'où sa prodigieuse ironie. C'est le roman de l'homme gai qui ne s'amuse pas. C'est le roman de l'homme heureux qui ne fait que souffrir.
Mais Dieu n'a aucune part dans La recherche du temps perdu.
En effet, Dieu est absent de l'œuvre de Proust. Notre auteur est aussi loin du christianisme militant de Port-Royal que de la casuistique plus transigeante des jésuites. Il ne fait pas de la morale. Pourtant, la morale se dégage de son comique aussi inévitablement que la satire. Proust ne généralise pas et partant ne moralise pas. Il ne condamne pas ses pantins, mais n'oublions pas que c'est lui qui les fait agir. Leurs gestes et leurs paroles donnent à penser. Ce qu'il importe de signaler, c'est que Proust, par la notation du petit fait, par le seul jeu des personnages, met en lumière ce qui constitue dans le fond la décadence d'une classe. Le comique moral tourne à la satire lorsqu'il décèle, au-delà d'un certain nombre de personnages, un mal qui gît au sein du groupe social dont ils font partie. Le péché de divertissement en est le symptôme. La leçon historique qui s'en dégage, et qui s'appliquerait aussi bien aux Borgia ou aux Bourbons qu'aux Guermantes, c'est qu'une classe qui n'a plus de fonction véritable dans une société, qui ne jouit que de sa fortune et de sa puissance acquise, qui s'amollit par le divertissement, est une classe condamnée à disparaître.
Il est une question qu'on peut se poser finalement dans la vie. Proust était-il gai ou triste ?
On a trop souvent tendance à accepter, sans qualification, l'image que quelques-uns de ses biographes et de ses critiques nous transmettent, d'un Marcel Proust lugubre et quelque peu sinistre, au visage triste et émacié, sorte de personnage à la Edgar Poe, vivant, renfermé dans cette chambre curieuse, au mur de liège de son appartement du boulevard Haussmann, avec ses fenêtres toujours fermées, ses odeurs étouffantes des fumigations qu'il a remplissées à toute heure, ses beaux vieux meubles, ironiques témoignages d'une vie naguère heureuse, entassés dans tous les coins. C'est l'image pathétique d'un misanthrope rongé par une maladie implacable qui n'attend que le moment où la mort viendra le délivrer de sa souffrance. La légende du reclus du boulevard Haussmann, d'une sorte de gigantesque araignée travaillant jour et nuit dans un lit éternellement défait, au milieu de ses cahiers et de ses brouillons, subsiste toujours. En fait, il y avait dans son caractère des tendances foncières et congénitales vers la gaieté, que même ses revers ne purent étouffer. Proust témoigna pendant toute sa vie d'un sens de l'humour toujours prêt à jaillir. Nous avons vu avec quelle drôlerie il faisait des imitations hallucinantes pour le divertissement de ses amis. Il aimait aussi à raconter des histoires gaies et amusantes. Il aimait les écouter. Il aimait la plaisanterie fine, la boutade aiguisée. Il aimait rire. C'est de son rire que presque tous ses intimes, et même ceux de la dernière période, parlent avec enchantement. Qui de nous, dit Anna de Noailles, ne se souvient de votre charmante physionomie désolée par une soudaine et peut-être feinte susceptibilité, puis aussitôt épanouie par le rire joyeusement narquois, par l'irrésistible comique que vous livrait toujours le spectacle des groupes humains. De même, Madame de Clermont-Tonnerre nous rapporte, il était d'une gaieté verbale étourdissante, qui divertissait sans jamais fatiguer. Et tenez, voici un témoignage d'un de ses amis les plus estimés, le compositeur Reynaldo Hahn, qui aida Proust à lancer ses plaisirs et les jours en y ajoutant quelques pages de sa musique. De nos rares entretiens, j'avais admiré l'amabilité ingénieuse de Marcel, sa miraculeuse rapidité de compréhension, son sens du comique. Et Georges Delauris, il était heureux de voir rire et il riait. Enfin, Jean Cocteau, qu'il a connu aussi à cette période de sa vie, fait de son rire un élément fondamental de son œuvre. Que Swann parle, ou Bloch, ou Albertine, ou Charlus, ou les Verdurin, j'écoute cette voix profondément rieuse, chancelante, étalée de Proust, lorsqu'il racontait, gémissait de raconter, organisant le long de son récit un système d'écluses, de vestibules, de fatigue, de halte, de politesse, de fou rire, de gants blancs écrasant la moustache en éventail sur la figure. Les faux génies craignent le rire. Il ouvre un homme à deux battants. On voit le trésor ou le vide. Marcel Proust l'aimait. Il y baignait comme dans du révélateur.
Alors en conclusion, Lester Mansfield, comment définiriez-vous l'art de Marcel Proust ?
Pour moi, l'art de Proust, loin d'exalter l'homme, le nivelle. Il établit entre les hommes cette communauté étroite et nécessaire qui existe entre les animaux d'une même forêt. il constate chez chacun les manies et les tics, les goûts et les mœurs qui lui sont particuliers. Et puis, avec une malice, un humour, une ironie infinie, il les fait danser tous dans une ronde comique interminable et sans relâche.
C'était Les Sentiers de l'humour, Marcel Proust. Interview imaginaire de Lester Mansfield, interprétée par Roger Bray, à propos de Marcel Proust, à qui il avait consacré une étude, Le comique de Marcel Proust, une émission de Mina Guillois, réalisée par Arlette Dave. Première diffusion sur France Culture, le 14 juin 1971. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Et je souris.